Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Claire Zalk pour son livre « Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy » paru aux éditions du Seuil avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Claire Zalk, vous êtes directrice de recherche à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Vous étiez venue à Mémoire Vive nous parler de votre livre sur les Juifs de Lens, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez également dirigé avec Tal Brutman un colloque qui a fait date pour une micro-histoire de la Shoah et qui a donné lieu à une publication au Seuil en 2012. Dans votre nouvel ouvrage, vous revenez sur les dénaturalisations mises en œuvre par le gouvernement de Vichy dès le mois de juillet 1940 et vous vous êtes pour cela plongé dans les archives des milliers de dossiers qui témoignent à la fois d'histoires individuelles mais aussi de pratiques administratives, discriminatoires et qui révèlent le fonctionnement de l'administration du régime de Vichy depuis les magistrats jusqu'aux maires des plus petites communes. Vous avez choisi, pour ouvrir ce livre, de citer les dossiers de dénaturalisation de la famille Binnenfeld, l'oncle et la tante de Georges Perec, que vous avez retrouvés aux archives nationales à Pierrefitte.
Mmh. Oui, c'était une sorte d'hommage aussi à Georges Perec qui imprègne un petit peu ma trajectoire d'historienne avec lequel je chemine. Et puis parce que c'est un dossier qui... Je voulais commencer le livre en donnant à voir le matériel sur lequel j'ai travaillé. Donc il fallait en choisir un sur les 1000. Celui-là, il est particulièrement intéressant aussi d'un point de vue archivistique, puisqu'il y a toutes les étapes en fait, de la procédure, de la demande de naturalisation de cette famille en décembre 1927, qui est naturalisée en 1928, à sa dénaturalisation en 1941, puis après à la contestation de cette dénaturalisation. Donc il y a une très très belle lettre de contestation. Et puis le décret va être rapporté pour certains membres de la famille, pas d'autres. Donc c'était vraiment rentrer dans cette histoire de famille permettait de donner au lecteur, je crois, d'éclairer en fait le matériel qui a fondé cette recherche. C'est-à-dire que c'était ça, fois 1000 évidemment, et j'allais pas exposer les 1000 dossiers. Donc c'était... Voilà, j'ai choisi ce dossier. J'aurais pu en prendre un autre, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressants. Mais celui-là, c'était une sorte de coup de chapeau à Georges Perec.
Alors juste pour nous remettre dans le contexte, est-ce qu'on peut juste en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenir sur les différents critères de déchéance de nationalité ou de dénaturalisation qui ont prévalu depuis 1791, peut-être plus précisément sur la dénaturalisation?
Alors, déchéance de nationalité, c'est pas dénaturalisation, hein, c'est pas la même chose, puisque les déchéances de nationalité, c'est une mesure qui fait suite à un délit, donc c'est une punition. Or, les dénaturalisations, il n'y a pas de délit. Il n'y a absolument pas de crime commis, de délit, ou aucune. Il ne s'agit pas de punir les gens, il s'agit juste de revenir sur une mesure donnée. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de continuité des politiques entre les politiques de déchéance et les politiques de dénaturalisation. Et justement, ce qui est particulièrement intéressant sur la loi du 22 juillet 40 qui va organiser ces dénaturalisations, c'est qu'il n'y a aucun critère. Justement, c'est ça qui est compliqué pour travailler, c'est qu'il n'y a aucun critère. On ne peut pas, par exemple, considérer que cette loi fait partie de l'ensemble de la politique antisémite de Vichy à proprement parler, puisque les Juifs ne sont pas visés dans le texte de loi. On ne peut pas dire que c'est une répression politique, les politiques ne sont pas visées. Il n'y a aucune population cible qui est nommément mentionnée dans la loi. La loi ne fait que dire qu'il faut réviser l'ensemble des naturalisations octroyées depuis 1927. Et donc, on va reprendre tous les dossiers un par un et regarder sur le dossier s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais français, sans aucune cible explicitement, en tout cas donnée par les textes.
Oui, contrairement à la première guerre mondiale, où il y avait donc il y a eu un processus de dénaturalisation des binationaux allemands,
Allemand et turc, puisque on était aussi en guerre contre l'Empire ottoman, donc en fait contre tous les ressortissants des puissances ennemies. Et donc c'était des sujets allemands, enfin anciennement allemands et sujets anciennement ottomans. Là, en effet, il y avait au moins, on explicitait le fait qu'on venait d'une certaine origine. Alors qu'en 40, il n'y a rien, il n'y a même pas de justification de la loi. Il n'y a pas de motif à cette loi.
Le prétexte, enfin, je sais pas si le mot ne convient pas, mais en l'occurrence, ce sont les naturalisations accordées depuis 1927, à un moment où, justement, une loi imposait seulement 3 années sur le sol français.
Donc, oui. Alors, pourquoi 1927, en effet, hein, pourquoi, d'ailleurs, il y a des controverses sur cette borne. Les Allemands, lorsqu'ils vont tenter de promouvoir un autre projet de loi de dénaturalisation, vont proposer d'autres type de borne chronologique, eux, évidemment, sans surprise, ils vont proposer 1933, en disant toutes les naturalisations depuis 1933 doivent être revues, visant là les Allemands qui avaient immigré en France pour échapper au régime nazi. Alors pourquoi 1927 ? Cette borne, elle s'explique par une loi, en effet, qui est la loi du 10 août 1927, qui est la loi la plus libérale qui a jamais été adoptée dans l'histoire de France en matière de nationalité. D'ailleurs, dans le récent livre de Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, je fais l'entrée 1927 pour justement montrer combien la France, à ce moment-là, ouvre grand les portes aux étrangers, et pour des motifs qui sont des motifs d'abord démographiques, il s'agit de naturaliser à tout va, donc notamment en octroyant la possibilité de demander sa naturalisation française aux personnes qui sont arrivées depuis 3 ans seulement, contre 10 ans auparavant, hein, donc il y a un vrai changement, mais également aux femmes qui épousent un étranger de garder leur nationalité française, alors qu'auparavant elles la perdaient, afin de fabriquer de bons petits Français. Mmh. Et tout cela pour lutter contre le déclin démographique de la France, puisque la France a perdu 1,5 million de soldats qui ont été, soldats et population civile d'ailleurs, qui ont été tués pendant la Grande Guerre. Donc c'est vraiment pour viser ces naturalisations rapidement, dans la crise xénophobe des années 30, cette loi a été accusée d'ouvrir trop grand les portes, de naturaliser des mauvais Français, etc. Donc elle a été beaucoup décriée, et du coup l'une des premières mesures de Pétain, c'est de revenir sur cette loi, de l'attaquer frontalement en dénaturalisant, enfin, ou en plus exactement, en révisant l'ensemble des naturalisations accordées depuis cette loi.
Est-ce que il a pris exemple sur le modèle nazi pour ces dénaturalisations
Alors c'est une controverse historiographique. Il semble que, en effet, on a trouvé le projet de loi, la loi nazie, dans les archives, les quelques archives qui portent sur la rédaction de ce projet de loi sur la nationalité. Donc sans doute qu'il y a eu des circulations. En revanche, c'est tout à fait différent dans les textes, hein, puisque justement la loi nazie vise très nommément les Juifs, alors que ce n'est pas le cas dans la loi française.
Alors il y a eu parmi les déchus, donc là on parle d'autre chose, mais voilà, on peut compter De Gaulle ou Montespan. En tout cas, les déchéances vont concerner 445 personnes jusqu'en 1944. Par contre, plus de 15 000 personnes seront dénaturalisées sur la même période, donc de 1940 à 1944.
On voit bien la différence, hein, c'est-à-dire que les déchus, il faut avoir commis une faute. Pourquoi De Gaulle, Mendès-France ? Parce que la loi, ça c'est une autre loi, c'est la loi du 23 juillet 40, hein, souvent on les confond d'ailleurs.
Bah oui, c'est le 22 juillet.
Voilà, la mienne, on va dire, celle des dénaturalisés, c'est la loi du 22, alors que celle des déchus, c'est la loi du 23. La loi du 23 juillet 40, elle va viser un certain nombre de délits, et notamment ceux qui ont quitté le territoire national. Et c'est à ce titre que De Gaulle et Mendès-France, qui quittent la France, vont être déchus de la nationalité française. Mais donc, vous voyez, c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, en termes numériques, c'est aussi tout à fait différent. 449 d'une part, 15 000 d'autre part. Puisque d'autre part, c'est pas d'avoir commis une faute, c'est toutes les personnes, on va revoir leur dossier pour voir s'il s'agit ou pas de, entre guillemets, évidemment, bon ou mauvais Français.
Alors sur ces 15 000 personnes, il y a 7 000 juifs, c'est bien ça ?
Non, c'est pas vraiment ça, parce que ce chiffre, c'est un chiffre qui, vous avez raison, hein, c'est pas que vous faites il y a une erreur dans votre chiffre, mais c'est un chiffre que moi je ne reprends pas à mon compte, puisque c'est un chiffre qui a été donné pendant la guerre à l'été 33, à l'été, pardon, 1943, aux autorités allemandes qui se plaignent pendant toute l'année 1942, et puis surtout l'année 43, du fait qu'on ne dénaturalise pas assez les Juifs. Et du coup, ils veulent tenter de faire passer un projet de loi qui dénaturalise collectivement les Juifs. Contre cette proposition, l'administration de Vichy dit « Mais pas du tout, nous on travaille là-dessus, on a une commission qui se réunit, qui dénaturalise, donc on ne veut pas du projet de loi imposé par les Allemands. » Et pour, dans cette espèce de bras de force, de négociation assez difficile dans tout l'été 43 entre les Allemands d'une part, Vichy d'autre part. Pour étayer le fait que cette commission dénaturalise bien des Juifs, Vichy va demander à la commission de donner un chiffre. Et la première réponse de la commission, enfin des personnels du ministère de la Justice, on ne peut pas vous donner de chiffre parce qu'on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif.
Ah, ce n'était pas dans les critères
Mais non, il n'y a pas de critères. Ouais. Donc justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous n'avons rien dans les dossiers, et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse, c'est comment vise-t-on les Juifs à partir de dossiers où la confession, la race, la religion n'est pas mentionnée. Donc ils répondent, la première réponse c'est cela, et puis devant l'insistance de l'administration centrale de Vichy, finalement on va donner ce chiffre de alors 7000 ou 6000 et quelques, et c'est d'abord c'est un chiffre, vous voyez, qui est daté de l'été 43, alors que la commission a fonctionné jusqu'à la fin, enfin jusqu'à l'été 1944, et d'autre part c'est un chiffre qui a été, qui est en fait un instrument de pouvoir dans une négociation, donc on retient très souvent cela, et je pense qu'on peut le retenir comme un ordre de grandeur, mais de là à dire qu'il y avait 7000 juifs, je pense qu'il y a un pas que je ne franchirais
pas. D'accord. Parce que, évidemment, pour le gouvernement de Vichy, le fait de dire que les Allemands puissent décider à leur place qui a ou pas la nationalité française, c'était une perte de pouvoir symbolique énorme.
Oui, en fait, l'une des thèses de mon ouvrage que j'essaye de démontrer, c'est contrairement à ceux qui disent que Vichy a protégé les Juifs français, très souvent en citant comme exemple ce refus d'août 43 de Pétain d'accepter le projet de loi dénaturalisant collectivement les Juifs, hein, il est vrai que Pétain a refusé ce projet de loi, et ce refus est très souvent interprété comme la marque d'une sorte de résistance de Pétain face aux demandes allemandes et de volonté de protéger ces Juifs français. Or, justement, moi, ce que je montre, c'est qu'au contraire, à ce moment-là, la pression est très vive sur la commission pour qu'on dénaturalise beaucoup plus de Juifs. Hein, et qu'il s'agit surtout pour Pétain et pour Vichy de garder la main mise sur une prérogative qui est la prérogative première de la souveraineté nationale, c'est-à-dire garder la main mise sur la politique de la nationalité, décider qui sont les Français, qui ne sont pas les Français, et refuser le fait que puissent s'immiscer dans cette politique quelques critères que ce soit nazis. Mais il ne s'agit absolument pas de protéger les Juifs français.
Qui a été visé par cette révision? Il y a également les personnes issues des colonies, c'est bien ça?
Enfin, toutes les personnes qui ont obtenu la nationalité française depuis 1927 sont visées. Donc ça fait 1 million de personnes qui est visée théoriquement par la loi. Les gens qui ont été vraiment soumis à la politique de dénaturalisation, c'est-à-dire dont le cas a été examiné par la commission, je l'estime à environ 650 000 personnes, puisqu'on n'a pas accès à tous les dossiers. Hein, c'est un peu complexe de rentrer dans ce détail, mais notamment les enfants qui sont nés en France peuvent devenir français par déclaration, et dans ces cas-là, il n'y a pas de manière d'avoir un dossier où il y a des éléments sur eux. Donc, ils ont été aussi dénaturalisés, mais uniquement par la dénaturalisation de leurs parents, puisque très souvent, ce sont des dénaturalisations familiales. Hein, on dénaturalise en famille. Mais en effet, dans les colonies, si on a été naturalisé dans les colonies, on est tout à fait soumis à la même loi. C'est-à-dire que c'est vraiment avoir acquis la nationalité française depuis 1927. Et dans ces cas-là, on est soumis à cette loi.
Donc, vous, Claire Zalk, vous dites environ 650 000 dossiers.
Alors plus là aussi, hein, je suis désolée, c'est des chiffres, des chiffres, faut être un petit peu précis. C'est 250 000 dossiers, mais comme les dossiers sont familiaux, lorsqu'on demande, ça correspond à environ 650 000 personnes.
Pour finalement 15 000
retraits de nationalité, tout à fait. Alors voilà, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est un gros ou un petit pourcentage, hein? On pourrait se dire 15 000 sur 650 000, finalement, ce n'est pas énorme en termes de taux de retrait, ce qui est d'une certaine manière vrai. De l'autre côté, lorsque vous comparez les 15 000 aux 459 déchus de la nationalité, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus. Donc voilà, je me prononce jamais en fait sur des... J'essaye d'avoir une lecture non manichéenne de l'histoire, donc je ne propose pas d'interprétation sur si c'est un gros ou un petit chiffre. Voilà,
c'est un fait,
ouais. C'est environ 15 000 dénaturalisés.
Alors il y a un chapitre également très intéressant dans votre livre où vous montrer finalement comment des enquêtes vont être menées, parfois à un niveau très local, pour savoir qui est indésirable, puisque au départ, on se base sur le nom de famille et sur le pays d'origine. C'est bien ça.
Alors, il y a plusieurs manières de dénaturaliser. Il y a une manière qui vient du haut, donc cette fameuse commission qui ouvre les dossiers et qui regarde les éléments du dossier. Donc dans ces cas-là, elle ne peut juger qu'à partir en effet du nom, du prénom, de la profession, du pays d'origine. Ça, c'est la manière massive. Mais parallèlement, on fait appel aussi aux autorités locales pour essayer d'accélérer le processus, notamment au début, dans l'année 40 et l'année 41, en disant à toutes les autorités locales, maires, préfectures, donnez-nous les noms de vos naturalisés qui doivent être signalés, puisque ce sont des mauvais Français pour telle ou telle raison. Et donc, il y a parallèlement deux procédures, un repérage local et puis quelque chose qui fonctionne par le haut. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'observer, parce que j'ai été faire plusieurs plongées dans des archives locales, que localement, les critères de l'application de cette politique diffèrent grandement des critères mis en place par la Commission au niveau central. Notamment, on va avoir, par exemple, dans l'Isère, une répression des politiques. C'est vraiment les militants politiques qui sont visés, alors que dans le Vaucluse, ça va être beaucoup plus ceux qu'on accuse de déviance sexuelle ou déviance morale. Notamment, les femmes célibataires sont extrêmement rapidement accusées de prostitution, les cas d'adultère vont être punis, ou encore les cas d'homosexualité. Et d'autre part, dans des départements comme le Pas-de-Calais, c'est vraiment une application purement antisémite de la loi, c'est-à-dire on va chercher tous les juifs du département pour les signaler comme des mauvais Français. Donc c'est intéressant de voir aussi, dans une étude de la politique de Vichy, comment elle est interprétée différemment selon les différents échelons de la politique.
Et peut-être ce serait justement intéressant peut-être de revenir sur ces acteurs de la révision.
Alors, en effet, ces acteurs, c'est assez compliqué de rentrer. Vous voyez, il y en a une multitude qui rentre en ligne de compte. Il y a ces acteurs, donc les rapporteurs de la commission, qui sont des juges, des magistrats, et dont j'ai un chapitre entier qui va essayer de comprendre quelles sont leurs carrières, quelles sont leurs caractéristiques politiques, sociales. Pourquoi ? Parce que ce qui est tout à fait intéressant, c'est que centralement, ils jouent un rôle essentiel au sens où les chances d'être dénaturalisés varient énormément d'un magistrat à l'autre. C'est presque le règne de l'arbitraire. Selon que vous tombez sur la pile d'un magistrat, vous avez 10 à 15 fois plus de risques d'être dénaturalisé que sur un autre. Donc j'ai essayé de comprendre à quoi tenaient ces différences dans l'examen des dossiers par rapport aux carrières de ces magistrats. Ça, c'est les premiers acteurs qui sont les plus importants d'une certaine manière de cette commission. En haut de cette commission, donc à la présidence, on a trois personnes. L'un, il y a deux conseillers d'État. L'un est président de la commission, Roussel. L'autre est vice-président. Et un troisième homme a un rôle tout à fait intéressant. Il est vice-président aussi de la commission. Il s'agit d'André Mornay. Or, il vient de la Cour de cassation. Or, juste après la guerre, il va être nommé par De Gaulle comme procureur général au procès Pétain. Ce qui explique le fait que les archives de cette commission, me semble-t-il, ont disparu. Je pense que les choses peuvent être liées. C'est-à-dire que cette personne qui a siégé à la tête de cette commission de révision des naturalisations va devenir ensuite celui qui va être chargé de l'ensemble de l'épuration de la magistrature et représenter l'État gaulliste dans la répression de Pétain. Donc c'est assez intéressant aussi sur les cadres de cette politique et ce qu'ils deviennent. Et ensuite, d'un point de vue local, en effet, il y a énormément d'enquêtes qui vont être lancées, et notamment d'enquêtes de police. Donc là, il s'agit de policiers, de maires, d'agents de la préfecture qui vont être en charge localement de l'application de cette politique.
Mais est-ce qu'il y avait une motivation idéologisée chez ces acteurs-là, ou simplement que c'était des juges qui étaient nommés de manière complètement indifférente?
C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question, c'est-à-dire que savoir quelles ont été les motivations d'une administration chargée d'appliquer ce type de législation pose la question de que fait-on lorsqu'on est fonctionnaire dans un contexte autoritaire. Là, dans les éléments que j'ai, je ne vois pas de personnes qui sont animées, qui sont dans des mouvements collaborationnistes, qui sont animées d'une idéologie antisémite, etc. C'est beaucoup plus des petits fonctionnaires ordinaires qui certes n'ont pas démissionné, qui certes n'ont pas refusé de prendre ce poste, mais qui, selon, juste obéissent aux ordres. Et ce qui est intéressant, c'est voir justement comment cette obéissance aux ordres peut avoir des conséquences énormes, puisque perdre la nationalité, c'est souvent perdre la vie. Mais c'est intéressant de pour l'historien, c'est tout à fait compliqué d'imputer à des actes des motivations. C'est-à-dire que ce pas-là, c'est-à-dire de, je peux observer comment les différents rapporteurs, par exemple, agissent sur les dossiers, ce qu'ils écrivent, essayer de voir quelles sont les catégories de jugement qu'ils mobilisent, notamment l'antisémitisme, hein, c'est une évidence, et notamment un antisémitisme fondé, ce que j'appelle un antisémitisme onomastique, qui est fondé sur les noms et les prénoms.
Et les métiers également, vous
dites Oui, et les métiers, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, un nom qui sonne juif, associé à une profession qui, dans cette espèce de catégorie du sens commun, hein, à l'ère juive, par exemple les métiers de la confection ou encore les médecins vont être vraiment la cible des retraits de nationalité, vont être associés à la dénaturalisation, sans que, que cela soit explicité, hein, mais par exemple, médecin israélite roumain, israélite étant une catégorie qui est mobilisée sur un nom patronymique, type Abramovitch, c'est vraiment une catégorie qui est motivée comme ça dans les procès-verbaux de dénaturalisation. Et je vois parfois des erreurs. Par exemple, on va dénaturaliser quelqu'un qui s'appelle Antonio Abram, et qui est un Italien, qui n'a absolument rien de juif, et c'est parce que, évidemment, il s'appelle Abram, qu'on va le dénaturaliser. Du coup, quand on signifie à la municipalité qu'il est dénaturalisé, le maire ne comprend pas et dit « mais je ne comprends pas pourquoi cet homme-là est dénaturalisé, il est tout à fait, y a rien à lui reprocher ».
Parce que s'il avait été juif...
On ne sait pas comment ils auraient réagi, mais c'est possible qu'ils comprennent mieux à ce moment-là la dénaturalisation.
Avant de terminer, j'aimerais justement qu'on revienne avec vous, Claire Zach, sur les conséquences de ces naturalisations qui sont multiples. Il y a, d'une part, il faut rendre ces papiers, vous en parlez, ça, de cet acte-là.
Alors déjà, il y a ce qui est, c'est les deux derniers chapitres du livre où j'essaye de me placer du côté des dénaturalisés. C'est aussi le sens du titre du livre, hein, c'est pas les dénaturalisations, c'est dénaturaliser, pour aussi comprendre à la fois la procédure, mais également comment les personnes en face, quelles sont les conséquences très concrètes. Et d'abord, on est convoqué au commissariat de son domicile pour qu'on vous notifie le retrait de nationalité. Donc, c'est des espèces de cérémonies d'humiliation symbolique extrêmement fortes où vous devez, non seulement vous apprenez très souvent donc à cette occasion, puisque que vous avez perdu la nationalité, il n'y a pas d'enquête, on ne vous dit pas que vous allez passer en enquête. Donc, du jour au lendemain, en fait, on vous informe que vous n'avez plus de la nationalité française. Et vous devez remettre vos papiers d'identité, donc carte d'identité qui viennent à ce moment-là d'être mise en place, hein, puisque c'est Vichy qui met en place la carte d'identité française pendant la guerre. Mais également les cartes d'anciens combattants ou encore tout un ensemble de papiers qui pourraient témoigner du fait que vous avez la nationalité française. Il s'agit aussi souvent de perdre son travail, puisque beaucoup d'emplois sont réservés aux Français, notamment les emplois de fonctionnaires, les instituteurs perdent leur travail, les emplois communaux. Et puis, il y a évidemment une dégradation symbolique aussi extrêmement importante, puisqu'on se retrouve pas d'une autre nationalité. La plupart du temps, d'abord, on n'a pas d'autre nationalité. Et puis, même si on en avait une, les autorités, par exemple, italiennes, refusent de reprendre les naturalisés français dénaturalisés d'origine italienne en disant « nous, on ne les veut pas, puisque vous les avez dénaturalisés, ça veut dire que ce n'est pas des bonnes personnes, donc on ne les veut pas ». Et donc, on se retrouve dans un statut d'étranger, d'apatride, même si le statut d'apatride n'est pas à ce moment-là reconnu comme une catégorie juridique, à devoir donc demander ces papiers d'identité, ces papiers d'identité d'étranger.
Et puis, la conséquence la plus importante, c'est évidemment qu'on est dans le cas des Juifs, c'est qu'ils ne sont plus protégés.
Alors voilà, ça c'est une conséquence évidemment très importante, et même plus que cela, c'est-à-dire qu'à la fois, ils perdent avec la nationalité française une protection relative, hein, puisqu'on sait bien qu'il y a eu aussi des Juifs français déportés. Une protection relative. Mais plus que cela, ce qui est vraiment, je pense, quelque chose d'important que j'ai découvert au cours de cette enquête, c'est que les enquêtes dont vous parliez tout à l'heure, déclenchées aux fins de dénaturalisation, vont en fait très souvent provoquer les arrestations. C'est-à-dire que en essayant de dépêcher un commissaire de police pour voir s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais français, comme pour reprendre les catégories de l'époque, on va mettre à jour des personnes qui n'ont absolument aucun intérêt à se faire remarquer à ce moment-là. Et très souvent, on le voit dans la chronologie, les retraits de nationalité sont suivis quasiment de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après d'arrestation.
Ah oui, ça peut être, ça sert de ciblage, en fait.
Ben, en fait, ça permet le ciblage. C'est pas le motif de la dénaturalisation, mais c'est un corollaire, et un corollaire qui est assez, qui a été vraiment là aussi une découverte, en fait, du livre, hein, c'est de montrer que plus que provoquer, donc d'enlever la protection de la nationalité française, qui est évidemment le cas, mais c'est aussi que ça va provoquer un certain nombre d'arrestations et donc de déportations.
Je vous remercie beaucoup, Claire Zalk, d'être venue aujourd'hui. Je rappelle donc que votre livre « Dénaturalisé » est sorti aux éditions du Seuil avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et j'invite évidemment nos auditeurs à le lire. C'était « Mémoire vive ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou « Mémoire vive » au pluriel.net.